L'affaire qui préoccupe encore tout le monde au Québec dans l'actualité, c'est malheureusement le décès des deux petites filles, Romy et Nora, du côté de Saint-Apollinaire. La battue qui est toujours en cours pour retrouver Martin Carpentier. On n'a pas d'autres informations. C'est pour ça qu'on vous en parle pas plus que ça. Ça servira à rien de vous répéter les mêmes choses. Donc, ça se poursuit. Il y a une fausse information, une information non fondée qui a mené les policiers un peu à UPIA aujourd'hui. Puis finalement, ça servait à rien. Donc, on poursuit, puis eux, ils livrent plus vraiment d'informations. Mais en arrière de tout ça, il y a plusieurs questions qu'on peut poser. Évidemment, la question pourquoi? Ouais. On ne le sait pas. La clé, c'est Martin Carpentier. La Sûreté du Québec le dit elle-même. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir en amont, pour éviter des drames familiaux? Parce que ça se répète souvent. Mm-hmm. Il y en a eu beaucoup des drames familiaux à l'époque. Puis même le terme drame familial, je ne l'aime pas beaucoup parce que ça a une connotation d'irresponsabilité. T'sais, il y a souvent des gens qui sont responsables des gestes en arrière de ça. Mais au final, quand même, on peut dire que c'est un drame pour les personnes qui le vivent.
Mais on a parlé aussi beaucoup depuis une semaine de détresse psychologique et comment détecter ça quand on parle de Martin Carpentier. Puis on a eu des témoignages d'amis, de voisins. On dépeint quelqu'un qui était là pour ses filles. Qu'est-ce qui s'est passé? On revient à la question pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce drame familial-là?
Mais il y a des gens qui interviennent auprès des familles en difficulté. Hein? Souvent, il y a des litiges lorsque divorce ou bien séparation. Et à ce moment-là, entrent en scène certains acteurs de première ligne, dont des avocats. Et il y a une avocate en droit de la famille qui a une idée pour essayer d'agir en amont, pour prévenir des drames familiaux, pour voir les signes avant-coureurs. Elle s'appelle Sharon Otis. Elle est avocate en droit de la famille. Bonjour, Maître Otis.
Oui, bonjour.
Alors d'abord, je vous le mentionne, c'est en primeur qu'on annonce ça. Il n'y a personne encore qui l'a sorti, votre initiative. J'aimerais, Maître Otis, que vous nous expliquiez en quoi consiste votre initiative.
Bien, au tout départ, c'est parti d'une entrevue de Mme Nancy Roy, qui est, dans le fond, la directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Donc, elle demandait à la télé la collaboration des policiers. Elle demandait une collaboration en général. Et je me suis sentie interpellée à titre d'auxiliaire de justice, à titre d'avocate en droit de la famille, parce que vous comprenez que la police, c'est à mon sens, à moi, c'est une étape seconde. Parce que la plupart, et là, je fais attention parce que dans le cas Carpentier, je veux bien être claire, là, on n'a pas de preuves qu'on parle d'infanticide, alors je ne parlerai pas de ce cas-là précisément. Absolument. Mais, somme toute, beaucoup de gens et beaucoup d'infanticides, comme le cas du docteur Turcotte, etc., découlent d'une séparation et généralement, ces personnes-là se retrouvent dans nos bureaux pour consultation et malheureusement, je veux pas généraliser, mais moi, ça fait 14 ans que je pratique et plusieurs hommes en majorité... Ouais. Je vous dirais que m'ont dit, regarde, elle ne reverra plus jamais ces bips d'enfants.
C'est des phrases que vous entendez dans votre cabinet, ça.
Oui. Et je les entends, je vous dirais, quand même assez souvent, OK? Ce n'est pas la généralité, mais somme toute... Donc, je me suis sentie interpellée parce que je me suis dit, à titre d'avocat, on a un rôle à jouer, on travaille pour les gens, on travaille pour... donc, j'ai écrit à cette Madame Roy-là, pour dire, regardez, moi je suis avocate en droit de la famille, on sait pas comment réagir, on sait pas comment quoi dire, quoi faire nécessairement. Bien évidemment, on décourage la personne qui nous dit ce genre de verbalisation de ne pas passer à l'acte, mais elle m'a répondu, je l'ai mis dans le fond, en étroite collaboration avec la directrice générale du barreau de Québec, Mme Isabelle Poitras, et fort possiblement qu'il y aura pour le barreau, pour les membres du barreau de Québec, à tout le moins, des formations pour pouvoir... parce que nous, au barreau, on apprend beaucoup de théorie, mais en pratique, vous comprenez, on agit avec des humains. Ouais. Et je trouve que des fois, on est peut-être mal outillé, malheureusement. Et je me suis dit, je dois intervenir parce que si je peux faire en sorte que, en raison d'une formation ou quoi que ce soit, j'aurais pu sauver la vie de ces, par exemple, de ces deux petites puces-là, ben au moins j'aurais fait mon travail et ce pourquoi j'ai prêté serment.
Maître Otis, est-ce que quand vous avez appelé là, les gens du Centre de prévention du suicide, ils avaient déjà une idée de qu'est-ce que pourrait être cette formation pour sortir du théorique et être aussi un peu dans, je sais pas si ça se peut, être en pratique ou comment faire?
Pas du tout. Je vous dirais que je les ai même pas appelés. J'ai transmis un courriel à Mme Roy.
Ah oui.
Cependant, sur le site de l'association, on voit qu'ils offrent des conférences, des ateliers, des déjeuners, causeries, etc. Donc, je pense que la directrice générale du Barreau de Québec a très bien réagi et bien évidemment, il faut pas oublier que on travaille pour les gens. Et ceux qui pratiquent en familial, les familialistes, on le fait principalement pour les enfants, vous comprenez? Donc, on a un rôle à jouer. Et je ne sais pas quels seront les développements futurs, mais somme toute, il y aura quelque chose qui va se mettre en branle pour qu'on puisse, à tout le moins, intervenir.
Maître Otis, il y a une bonne question d'un auditeur au 25226 qui dit, il existe des façons légales d'empêcher un des parents d'avoir accès à ses enfants lorsqu'il y a, par exemple, des propos menaçants ou quoi que ce soit. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est l'avenue légale qu'on doit privilégier, c'est-à-dire l'interdiction, ou plutôt essayer de prôner une justice davantage à visage humain?
Ben regardez, ça dépend des cas, ça dépend de la gravité des cas, ça dépend de la gravité des verbalisations du client. Si moi, le client, comme devoir, ce que j'ai au niveau déontologique, c'est si j'ai la certitude que la personne qui est devant moi ou ses enfants, il y a crainte pour leur sécurité et leur santé, je dois, vous comprenez, dénoncer ces gens-là. Donc, vous comprenez que le processus judiciaire, c'est une autre chose. Donc, si on descend en gravité, on peut passer par une ordonnance de sauvegarde qui est une mesure on peut se présenter devant le tribunal à courte échéance pour faire en sorte qu'il y ait, dans le fond, cesse les droits d'accès ou soit fait sous supervision ou en maison de la famille, etc. Donc, mais je pense que on doit aussi intervenir du côté humain si c'est de moindre gravité. Et c'est là où est-ce que je voulais qu'on intervienne, nous, à titre de membre du barreau, parce que je trouve qu'on devrait mettre l'emphase et on le fait pas assez souvent.
Ben vous manquez d'outils. Autrement dit, vous manquez d'outils et vous voulez qu'on développe un coffre à outils pour les avocats en droit de la famille.
Et je vous dirais qu'il y a de plus en plus de détresse psychologique et avant et post-COVID. OK? Donc, ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas, je ne vois pas de distinction, je ne vois pas de différence. Quand une personne est rendue à faire un infanticide, c'est que la personne est sérieuse, elle a des problèmes, mais cependant, vous comprenez très bien que les gens nous disent ce qu'ils veulent bien nous dire. Donc, ils sont pas fous. Ils savent bien que si ils me disent qu'en sortant de mon bureau, ils vont aller
commettre un geste violent.
C'est ça. Ils savent bien que j'ai comme devoir déontologique de le dénoncer. Ouais. Donc, il y a cet aspect-là. Et aussi, il faut pas perdre la confiance du client. Et en le dénonçant, vous comprenez qu'on peut perdre...
c'est un équilibre, Maître Otis, qui est difficile à aller chercher. Maître Otis, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Informez-nous des développements par rapport à cette initiative-là.
Certainement.
Sharon Otis, vous êtes avocate en droit de la famille et vous êtes la leader de cette initiative. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce midi.
Ça fait plaisir. Passez une belle journée.
Vous aussi. Sharon Otis est avocate en droit de la famille et donc a eu l'idée d'une initiative, une espèce de collaboration entre le Barreau de Québec et la prévention du suicide, l'Association québécoise de la prévention du suicide, pour essayer de déceler des signes avant-coureurs. Vous comprenez que ce ne sera pas une science exacte. Là. On n'est pas...
Mais une formation ne peut pas faire de tort. D'essayer de détecter c'est quoi les signaux, de parler des fois. Les gens au centre de prévention du suicide sont aussi avec il y a des psychologues qui sont impliqués, etc. Donc, des fois, d'avoir des outils pour mieux aiguiller, épauler aussi ces gens-là lorsqu'on les retrouve dans leur bureau, pourquoi pas?
J'irais jusqu'à dire, là, si j'avais à me mouiller un petit peu plus, là, qu'on devrait tous avoir quelque part dans notre cursus un petit cours de psychologie. T'sais, des petites bases en psychologie 101, tu sais, comprendre des messages non verbaux, la dépression, la détresse psychologique, tu sais, rien d'exhaustif là, pas faire de nous tous des psychiatres là, mais juste avoir des bases peut-être pour comprendre davantage celui avec qui on interagit, parce que ça donne qu'on est des êtres humains puis qu'on vit ensemble. Midi 57.